RCF. Des hommes et des femmes qui partent sans valise ni carte bleue à la rencontre de tous ceux qu'ils croiseront sur leur route, une pérégrination sans programme établi, dans un élan de confiance. C'est ce que raconte l'évangile de ce dimanche. Luc y décrit l'envoi en mission des disciples de Jésus, une joyeuse troupe prête à s'engager pour transmettre à tous le goût d'une vie large et profonde reçue auprès de leur maître. Pour commenter ce passage d'évangile, je reçois Anne Faisandier, pasteur de l'Église protestante unie de France à Marseille. Nous écoutons la parole, c'est chez Luc, chapitre 10, versets 1 à 12, puis 17 à 20.
Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
Anne Faisandier, il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Ils sont deux par deux.
On trouve ça souvent, hein. Comme les Dupont. Jamais tout seul.
Comment vous l'expliquez, le deux par deux?
Alors moi, je l'entends comme une invitation à l'humilité. Tout seul, on ne peut pas grand-chose. On a besoin d'un frère ou d'une sœur qui soit avec nous. On n'est pas tout seul, en fait. Voilà. On est accompagné. Et en même temps, deux, c'est pas beaucoup. Donc, on n'envahit pas les gens chez qui on arrive. On n'est que deux, mais on est quand même deux.
Il envoie les disciples en avant de lui, c'est-à-dire que Jésus a prévu de passer dans ces localités et ces villes?
Mais vraisemblablement. Et leur travail, c'est d'ouvrir la voie. En fait, c'est de préparer le chemin. C'est un peu comme Jean-Baptiste. C'est étonnant parce que quand on regarde le texte, ils sont là pour déjà annoncer l'évangile et le mettre en œuvre, le vivre là où ils seront envoyés. Et en même temps, il y a quelqu'un qui doit venir derrière eux, en fait. Jésus doit venir derrière eux. Ça me parle beaucoup encore aujourd'hui. Quand on annonce l'évangile, nous ne sommes pas l'évangile. Nous ne sommes que les ouvreurs. Et finalement, c'est ça qui nous est demandé.
Il est dit que c'est en toute ville et en toute localité. On a l'impression qu'il n'y a pas d'interdit, là. On peut aller partout.
Absolument. Alors, c'est quand même là où lui avait prévu de se rendre, visiblement. Oui, c'est très large. Alors, après, petit à petit, ça se précise. C'est-à-dire que ça dépend de l'accueil. Ça aussi, je trouve que c'est très riche, parce que souvent, on se dit, coûte que coûte, il faut que je partage mon message, y compris quand je reçois de l'hostilité en face. Et on voit que là, pas du tout. Le premier travail des disciples, c'est annoncer la paix. Et si cette paix trouve un écho, s'il y a une résonance avec cette paix, alors à ce moment-là, on peut passer, j'ai envie de dire, à la phase 2, s'installer, commencer à vivre avec les gens. Et avant d'être dans de la parole, dans de l'enseignement, on est dans des choses très simples. Mangez, buvez, demeurez là, installez-vous.
Anne Faisandier, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche, au 10e chapitre de l'évangile de Luc, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur dit, la mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Comment comprendre cette image prise par Jésus de la moisson, où il y a un maître de la moisson, des ouvriers?
Je pense que c'est être appelé à occuper la juste place. Nous ne sommes pas les maîtres. Et il le reprendra à la fin du texte, d'ailleurs. L'autorité qui est donnée, il y a une vraie autorité qui est donnée aux disciples pour annoncer l'évangile. Mais cette autorité, elle ne fait pas des ouvriers un maître. Et elle ne fait pas des disciples le Christ. Enfin, je crois qu'il y a vraiment cette différence-là. Et la position de l'ouvrier, elle est indispensable pour que la moisson rentre. En même temps, ça n'est pas l'ouvrier qui fait pousser. Ça n'est pas l'ouvrier qui va engranger, qui va semer, etc. C'est un autre qui a cette vision. On a qu'un petit bout du travail. Et il faut qu'on se tienne là. Déjà, ayons l'humilité de nous tenir là.
L'évangéliste Luc fait dire à Jésus, « Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Figure de l'agneau, une figure que l'on retrouve dans d'autres évangiles, bien sûr. Donc c'est un peu angoissant comme situation.
Ils envoient un peu à l'abattoir. Hein. Les agneaux au milieu des loups, ils font quand même pas très longtemps. Je pense que c'est un avertissement pour pas y aller la fleur au fusil. C'est pas un travail qui sera facile. L'agneau, face au loup, ne peut pas se défendre. Donc, c'est une figure d'humilité et de paix, de fragilité. Oui, de paix, en fait. C'est-à-dire choisir le camp de la paix, quoi qu'il arrive. On n'y va pas avec des armes, même si on y risque sa vie. Et c'est une figure christique. L'agneau, voilà, c'est le Christ, c'est la figure de l'agneau de la Pâque qui a été sacrifié, et finalement c'est dans cette position-là qu'il envoie ses propres disciples, même s'il faut qu'ils soient sacrifiés, martyrs. C'est pas ce qu'il leur demande là, c'est pas ça le but ultime, mais si ça doit en passer par là, en tout cas ils ne doivent pas être des loups pour les autres.
Il y a ce mot aller, point d'exclamation, donc là Jésus semble dire faudra du courage, parce que aller, c'est bon.
Oui, oui.
C'est une sorte d'injonction.
Je le vois presque étendre les mains pour à la fois les bénir et les envoyer, parce que sans sa force à lui, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut qu'ils partent avec ce que le Christ leur donne de capacité d'être juste là, pleinement, mais juste là. Pas dans l'agressivité, pas dans la conquête, pas dans l'impatience.
Vous disiez qu'on ne s'autoproclame pas disciple, donc là on a ce mot sur lequel on peut s'appuyer finalement, se souvenir de ce aller.
Oui, de ce aller, de vous n'êtes que des ouvriers, de la condition qu'il leur impose, parce qu'il leur impose quand même de partir nu.
Ne porter ni bourse.
Voilà, ni bourse, ni sac, ni sandales. Donc ça, c'est pour moi vraiment la condition du voyageur, mais du voyageur qui ne part avec aucune sécurité. Il va devoir, au fur et à mesure du chemin, découvrir des ressources ou des gens qui vont lui permettre de manger, de s'abriter. Voilà, il doit partir juste avec sa confiance que le chemin s'ouvrira devant lui. Donc c'est là encore une figure de pauvreté et d'humilité. C'est pas une figure de toute puissance. Ils arrivent pas bardés de matériel pour faire leur évangélisation, hein, pas du tout. Et en plus, il les concentre sur l'objectif, ne saluer personne en chemin.
Oui, mais alors là, on peut se dire quand même, ça manque de convivialité, de partir à la rencontre sans saluer personne. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors pour moi, c'est garder l'œil rivé sur l'objectif. N'oubliez pas que vous êtes envoyé dans des endroits où je vais aller moi. Et donc, allez-y directement là où vous êtes envoyé. Et ça me parle beaucoup, moi, par rapport à notre façon de vivre en église, où parfois, à force de vouloir être dans la convivialité, l'accueil de tout le monde, etc., on peut perdre de vue quel est notre objectif. Et notre objectif, il est bien d'annoncer l'évangile et d'annoncer le Christ qui vient derrière nous. Et ça, parfois, ça ne souffre pas de détour. En tout cas, on doit rester droit sur son objectif. Après, il nous invite aussi à nous arrêter quand les gens sont prêts à entendre. Mais on ne perd pas de vue que l'objectif, c'est d'annoncer cette parole-là, pas autre chose.
RCJ. RCF, enfin une bonne nouvelle.
Anne Faisandier, Jésus donne des instructions à ses disciples qui partent dans les villages avant que lui-même n'y passe. Il continue « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. » Apporter la paix, c'est quelque chose d'essentiel. On trouve ça dans la première alliance. Il y a toute la notion de shalom.
Shalom, c'est ça. C'est exactement ce qu'ils disent. Hein. On les entend quasiment dire shalom en rentrant dans la maison.
Donc il y a une bienveillance qui se présente.
Voilà, et c'est pas arriver avec son Dieu en bandoulière qu'on serait là pour imposer à l'autre. D'abord, il y a ce souci de paix qui résonne très fortement aussi dans l'Évangile et pour Dieu. C'est-à-dire on se présente d'abord dans un mode relationnel à l'autre qui est de faire la paix. Et si l'autre a cette oreille-là et a soif de cette paix, alors des choses seront possibles. Et on ne peut pas imposer la paix par la force. Si votre paix revient à vous, enfin, si elle, c'est pour moi, c'est un peu, vous savez, l'image de la colombe dans l'arche de Noé, le récit de l'arche de Noé. Quand elle trouve pas d'endroit où poser ses pattes, elle revient à l'arche. Et c'est vraiment ça. La paix qu'on envoie, si elle trouve pas d'endroit d'accroche chez l'autre, eh ben, elle revient. C'est pas qu'on reprend, c'est que juste l'autre n'est pas prêt. Et dans ces cas-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. En fait, on peut faire que du dégât. Enfin, en tout cas, moi, je l'entends comme ça.
Donc, l'envoyé en mission gardera la paix. Quoi qu'il arrive, s'il reste attentif à la maintenir.
Voilà, c'est ça. Et c'est la seule chose qu'il a à partager. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de cadeau pour ses hôtes, puisqu'il arrive sans bourse ni sac, mais il a cette paix.
Jésus continue en disant que le disciple est invité à rester dans la maison dans laquelle il arrive, à manger et à boire ce qu'on lui offre, car l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce qu'il fait allusion là à certains interdits qui existaient dans la tradition juive de ne pas manger par exemple des aliments impurs?
Alors sans doute, c'est un peu la parole de Paul, hein, se faire tout à tous. De même que vous êtes accueillis, à partir du moment où l'autre vous accueille en paix et veut la paix, vous ne venez pas semer le trouble en arrivant avec votre culture, vos interdits, etc. Acceptez d'être chez l'autre comme l'autre est et de le découvrir. Ça me fait vraiment penser à tout le travail des personnes qui partent en mission sur les questions culturelles pour ne pas choquer ou parfois avec les meilleures intentions, finalement on est très maladroit. Et d'abord, c'est tais-toi avant de parler. Installe-toi, laisse l'autre t'accueillir avant de vouloir lui donner quelque chose. Et ça demande une vraie humilité, parce qu'on se place dans la position du pauvre, de celui qui a besoin d'être accueilli, de celui qui a besoin de l'autre pour vivre. Et c'est pas si simple. Et je pense que trop souvent, dans le christianisme, on a entendu le travail de la mission comme un travail conquérant. Et là, la figure que dessine le Christ n'est pas du tout celle-là. Il nous envoie, oui, avec force, mais en même temps, dans une position qui est vraiment une position d'accueil et d'humilité.
Et puis en plus, il dit qu'il faut rester dans la maison qui nous accueille. Il ne faut pas passer de maison en maison.
Non, pas de zapping, il faut du temps. Moi, je l'entends comme ça, en tout cas.
Donc, ce n'est pas une logique de rendement et de chiffres.
En tout cas, pas de chiffres. Peut-être que le rendement, il est ailleurs. Et qu'il suffit qu'une seule personne accueille vraiment l'évangile à cet endroit-là pour que peut-être après, toute la ville puisse, par contagion ou par en voyant le témoignage de cette personne-là, accueillir quelque chose. Alors que si on veut aller trop vite, ça va rester superficiel et ça va pas s'enraciner. Et du coup, c'est pas un accueil vraiment de l'évangile avec toute la profondeur et la complexité qu'a cette parole. Et c'est vraiment comme ça qu'est construit le texte, parce que après, une fois qu'il parle de manger, boire, s'installer, prendre ce temps-là, il passe encore à la vitesse supérieure, puisqu'il guérissait les malades qui s'y trouveront. Donc là, on commence à poser des signes parlants, mais aussi guérir les malades, ça veut dire qu'on a repéré où l'autre avait mal, et qu'on a été capable de le rejoindre jusque-là, jusque dans sa souffrance. Et que la parole de l'Évangile, elle vient se poser là, pas pour instrumentaliser, mais pour apporter la paix là où il y a du trouble.
Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il a fallu du temps pour connaître la personne et pour être au plus juste avec ce que j'ai envie d'amener.
Oui, et je pense aussi installer une relation de confiance qui permet à celui qui est souffrant d'accepter d'être touché. Alors, je ne sais pas si c'est physiquement, là on ne nous dit pas comment il guérissait les malades, mais on peut, je pense, entendre ce terme de être touché dans toute son épaisseur, que ce soit dans son cœur ou que ce soit dans son corps, vraiment d'être rejoint par cette parole de Dieu qui est une parole qui agit et qui change les existences. Et c'est bien ça dont il est en jeu quand il parle de guérir les malades. Il y a un avant et un après.
Anne Faisandier, Jésus envoie ses disciples au-devant de lui. Luc nous dit qu'il les enjoint à prendre soin de ceux qui souffrent, puisque effectivement il y a cette parole « guérissez les malades » et « dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, cette histoire de royaume de Dieu qui s'approche ?
Eh bien justement, c'est toute la différence avec un guérisseur. On revient un peu sur la question de l'ouvrier et du maître de la moisson. C'est-à-dire que s'il n'y a pas mention du règne de Dieu et du fait que ça n'est qu'un signe de ce royaume de Dieu qui arrive avec Jésus, ils seraient eux-mêmes les agents du changement en étant capables de guérir. Or, ça n'est pas ça leur mission. Les guérisons, même les guérisons, qui sont des signes, j'ai envie de dire, peut-être encore plus extraordinaires que le fait de s'installer, de manger, d'être accueilli, etc. Même les guérisons ne sont que des signes de ce qui vient, qui est un royaume spirituel qui peut changer le monde et qui est vraiment la pointe de l'évangile. On voit toujours que le début de la prédication du Christ, c'est le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous et s'est approché. Bah, c'est toute l'incarnation. En Jésus-Christ, Dieu s'est approché, il nous rejoint dans notre vie, dans notre quotidien.
Il est dit aussi, à la fin de ce passage, qu'ils ne seront pas toujours accueillis. Et donc Jésus leur demande de secouer la poussière de leurs pieds pour la laisser sur place. Comment vous l'interprétez ?
N'emportez rien de cette ville-là. Pour moi, c'est très libérateur. Quand on n'est pas accueilli, c'est difficile. Il y a une dimension violente et je crois qu'on a tendance à emporter dans son cœur la blessure que c'est de ne pas être accueilli. Et là, Jésus nous invite à laisser aussi ça sur place. C'est-à-dire que de même que la paix va se poser dans le cœur de celui qui en a soif, il invite les disciples à ne pas laisser la blessure s'envenimer. Donc si les gens ne les ont pas accueillis, on laisse ce non-accueil là où il est et on continue son chemin. On s'arrête pas, on continue à annoncer l'évangile. Donc pour moi, c'est une parole très libératrice, cette invitation à secouer la poussière qui s'est attachée à ses pieds. Et en plus, ce que je trouve admirable dans ce texte, c'est que tout en faisant ça, on dit quand même, sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. C'est-à-dire que vous l'accueillez ou pas, le règne de Dieu sera quand même proclamé. Il s'est quand même approché, même de ceux qui n'en veulent pas. La balle est dans le camp de ceux qui sont prêts à accueillir ou pas. Mais en tout cas, de manière unilatérale, Dieu, en Jésus-Christ, s'approche de nous.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Anne Faisandier, dans l'évangile de ce dimanche, il est question de l'envoi des disciples de Jésus, nous en avons parlé, et puis de leur retour. Luc nous dit que les 72 disciples reviennent tout heureux et disent au Seigneur « Même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». On a l'impression qu'il y a de l'humour là, de la part de Jésus, presque un,
oui.
Un regard.
C'est vrai que c'est étonnant de voir Jésus comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit bien qu'il touche quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'on voit bien qui est derrière les maladies. Et que finalement, cette parole de l'évangile, ce règne de Dieu, il vient s'imposer contre un autre règne qui est celui de Satan. Satan, c'est l'adversaire. Donc oui, c'est pas son combat, l'annonce de l'évangile. Et il l'avait dit dès le départ, hein, que vous serez comme des agneaux au milieu des loups. Donc il est assez cohérent, j'ai envie de dire, sur son message. Et en même temps, effectivement, il y a une dimension d'humour. C'est-à-dire que dans cette vision, comme si Satan avait été vaincu par ses disciples. Oui, d'un côté, c'est des prémices, et en même temps, il n'est pas encore tout à fait vaincu. C'est comme s'il leur disait, soyez quand même conscients des limites de votre propre action. Et d'ailleurs, il le leur dit après, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Donc encore une fois, restez à votre place. Vous ne devez pas ça à votre propre pouvoir. C'est moi qui, en vous envoyant, vous ai donné mon autorité. Donc c'est une autorité par délégation. J'ai envie de dire, et c'est ça finalement être disciple ou être envoyé apôtre, c'est agir par délégation, mais toujours pour un autre et au nom d'un autre.
Jésus leur dit au contraire de se réjouir parce que leur nom se trouve inscrit dans les cieux.
Voilà, vous appartenez déjà à ce royaume en fait, à ce royaume de Dieu qui est annoncé. Vous avez cette chance-là, Alors, ça ne vous donne aucun pouvoir extraordinaire sur la terre. Ça ne résout pas le combat de manière définitive. Et nous, on sait tous que c'est à la croix et lors de la résurrection que la victoire sera donnée de manière ultime. Mais c'est comme des prémices. On parlait de moisson tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que finalement, les disciples s'y sont tellement heureux, joyeux, c'est qu'il leur est donné de goûter les prémices de la moisson. Et donc, il y a quelque chose de tangible dans leur vie même. Ils voient l'évangile agir en action. Ça me fait penser à un témoignage d'une de mes collègues où on parlait d'un ministère d'accompagnement des personnes dans sa paroisse et qui est quand même assez exigeant, qui demande une formation, de la disponibilité, etc. Et elle me dit, mais on n'a aucun mal à recruter parce que les gens qui font ça, ils sont les témoins de la puissance du Christ à l'œuvre aujourd'hui dans leur vie.
Et puissance de vie.
Une puissance de vie qui aujourd'hui relève des gens, bénit, guérit, remet en marche aujourd'hui. Et ça, c'est une prédication tellement forte pour notre propre vie qu'on a tous envie de vivre ça. Et finalement, je crois que c'est aussi ça le témoignage de ce texte qui ne nous épargne pas sur les difficultés de la mission. Il ne nous dit pas ça sera facile, allez-y la fleur au fusil, ça va marcher à tous les coups. Il nous installe dans une position très, très humble et en même temps un enracinement spirituel profond. C'est dans notre lien à Christ et à Dieu que nous recevons l'autorité de vivre ce chemin. Et sur ce chemin-là, nous serons les premiers au bénéfice de la joie de l'Évangile.
Anne Faisandier, nous avons lu ensemble cet évangile. Vous avez commencé à nous dire en quoi il était une bonne nouvelle. En quoi, justement, peut-il changer la vie de ceux qui l'écoutent et qui ne sont pas forcément habitués à entendre de telles paroles ?
Pour moi, c'est dans cette dynamique d'accueil. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, comment je peux faire pour m'approcher de Dieu ou de Jésus ? Moi, j'entends ça très souvent. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas prier. On ne m'a pas appris à aller dans les églises. On a des tas de barrières, de méfiance. Oui, mais dans l'église, il se passe aussi ça et ça. C'est pas toujours très reluisant. Et tout ça, c'est vrai, d'ailleurs. Tout ça, c'est vrai. Et en même temps, Jésus nous parle pas de ça. Il nous dit, c'est simple, il suffit d'accueillir. Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous avez soif de paix ? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir chez vous, dans votre maison, des gens qui sont prêts à venir vivre avec vous de paix ? Tout commence là, des deux côtés, pour celui qui a quelque chose à partager et pour celui qui a soif. Et c'est finalement extrêmement simple, c'est un motif d'hospitalité. Et je me dis, aujourd'hui, dans notre société, cette hospitalité de l'autre, auquel on ne s'attend pas, mais qui est porteur d'une bonne nouvelle pour nos vies et qui peut y compris nous guérir, ben c'est à la fois très simple et pas si simple. Voilà. Ça nous demande de passer des barrières, de ne pas avoir peur, de ne pas commencer par se barricader, de ne pas commencer par prêter l'oreille à toutes les bonnes raisons qu'on aurait de se méfier. Être d'abord dans l'accueil, dans la confiance, dans l'hospitalité, parce que finalement, accueillir l'Évangile, c'est aussi simple que ça.
Mais si c'était aussi simple que ça, il y aurait du monde partout dans les temples, dans les églises.
Ah, mais il ne faut pas tout mélanger. Jésus, il ne les invite pas à aller dans les temples et les églises. Les disciples, ils ne sont pas envoyés pour remplir les temples et les églises. Ils sont envoyés pour ouvrir le chemin du Seigneur. Et moi, je crois que dans les temples et les églises, on peut y aller éventuellement une fois qu'on a été rencontré par Jésus-Christ et qu'on s'est laissé approcher. Mais fort heureusement pour nous tous, le Christ ne reste pas enfermé dans les temples et les églises. J'ai même tendance à y penser qu'il est plutôt ailleurs que là.
Une précision sur la prière. Prier pour avoir des moissonneurs. Est-ce qu'il faut prier aujourd'hui pour avoir des moissonneurs ?
Inlassablement. Et être prêt à accueillir les moissonneurs que le maître nous enverra, même quand c'est pas ceux que nous on aurait recrutés. Parce que moi j'ai constaté que souvent le Seigneur a des critères qui sont pas les nôtres et qui sont surprenants dans un premier temps. On se dit mais il nous envoie des gens là dans l'église, mais qu'est-ce qu'on va en faire enfin. Et en fait, après coup, on se rend compte que c'était ces personnes-là qu'il fallait par rapport aux gens qu'il allait falloir rencontrer derrière et que nous on n'était pas capables d'aller les rencontrer.
Oui, donc on s'auto-proclame pas moissonneur et on ne choisit pas non plus ceux qui ne sont envoyés.
Et ce qui est en jeu dans la prière, c'est bien ça, c'est laisser Dieu et l'Esprit aux manettes et pas nous-mêmes. Ça, c'est un travail permanent. C'est justement savoir se réjouir que nos noms sont inscrits dans le ciel et que ce n'est pas à la force de notre propre foi ou de notre belle annonce ou de nos beaux outils, quels qu'ils soient, que nous ferons quoi que ce soit. C'est Dieu qui est aux commandes.
Merci à vous, Anne Faisandier, pour ceux et celles qui veulent relire l'Évangile. C'est chez Luc, chapitre 10, versets 1 à 12, puis 17 à 20. Une émission à réécouter sur le site rcf.fr à la page « Enfin une bonne nouvelle ».